Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des animaux en cage sur un marché où se pressent commerçants et acheteurs. Une chauve-souris, un singe chassé dans la forêt, préparé et consommé en famille. Des scènes assez banales hein, dans certaines régions d'Asie ou d'Afrique, mais susceptibles. L'ensemble de la planète en a pris conscience aujourd'hui d'avoir d'incroyables répercussions en termes de santé mondiale, en termes de bouleversement de nos quotidiens. Les maladies émergentes ont longtemps été le terrain de recherche pour des scientifiques partageant leur temps entre terrain et laboratoire. Ebola, fièvre de Lhasa ou de Marbourg, une réalité pour les habitants de certaines zones tropicales. SARS en 2003, MERS en 2012 avait touché l'Asie et le Moyen-Orient. Mais désormais avec le Covid-19, ce nouveau péril n'est plus limité géographiquement. Et lorsque l'on sait que près de 70% des maladies émergentes sont des zoonoses, on se dit qu'il est effectivement urgent, il est grand temps de s'intéresser davantage à la relation entretenue entre santé animale et santé humaine. C'est donc l'objet de notre émission du jour, comment identifier les agents pathogènes qui circulent dans le monde animal, comprendre les interactions avec l'humain, améliorer la surveillance, sensibiliser les populations et lorsque l'épidémie se déclare, adapter la riposte pour offrir la meilleure protection possible en termes de santé publique et dans le respect des droits humains. Vivre avec des animaux mangés, des animaux élevés, des animaux, comprendre ces interactions entre hommes et faune. Pour nous éclairer aujourd'hui en ligne avec nous, professeur Éric Delaporte, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes infectiologue, professeur des maladies infectieuses à l'université au CHU de Montpellier, directeur de l'unité VIH-SIDA maladies associées à l'IRD et à l'INSERM. En ligne également, Romain Duda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éco-anthropologue, chercheur post-doctorant à l'Institut Pasteur au sein de l'unité de recherche anthropologie et écologie de l'émergence des maladies. On va retrouver tout à l'heure en ligne du Gabon le docteur Barthélémy Goubangoy, vétérinaire primatologue, chef de service au centre de primatologie au centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville. Il est aussi président de l'ONG Save Gabon's Primates. Une seule santé, One Health, tout ça encore en anglais, les zoonoses menacent pour la santé mondiale. Trois agences de l'ONU, l'OMS, la FAO et l'OIE y ont consacré un guide l'an dernier. On en parlera tout à l'heure avec l'un de ses contributeurs, le docteur Stéphane Delaroque. Il est vétérinaire, conseiller technique à l'OMS dans le programme des urgences sanitaires et chef d'équipe du service interaction homme-animal.
Priorité santé sur RFI.
Un sujet, on l'a bien compris, qui concerne tout le monde. Alors on va essayer d'être le plus clair possible. Au cœur de cette émission, il y a pour commencer deux termes techniques, zoonose et maladie émergente. Alors professeur Delaporte, on l'a dit, vous enseignez, pour commencer un petit exercice de pédagogie, définition pour poser les choses, zoonose, qu'est-ce que ça veut dire ?
Une zoonose, c'est une maladie qui a pour une origine l'animal, sachant, comme vous l'avez dit en introduction, que la majorité de nos maladies infectieuses ont une origine animale, c'est-à-dire que les animaux sont infectés par des virus, des bactéries, qui, lorsqu'ils vont passer chez l'homme, vont être à l'origine de maladies. Donc le terme zoonose correspond à l'origine de l'infection.
Et quand alors, on dit maladie émergente, oui, c'est bien cela.
Et donc maladie émergente, alors le terme maladie émergente, définit une maladie nouvelle, une émergence. Souvent maintenant on parle d'émergente ou de réémergence parce qu'on s'aperçoit que des maladies qu'on pense être émergentes et en fait avaient existé il y a longtemps sans donner de grandes épidémies. Et par exemple, le bel exemple de la maladie émergente qui a dramatiquement réussi, c'est bien sûr le sida, puisque l'origine, maintenant c'est ce sont les grands singes, le passage, une fois de ce virus du singe à l'homme, a entraîné la contamination de plus de 80 millions d'habitants, de personnes en 30 ans. Donc on est sur une maladie émergente dramatiquement dramatique. À côté de ça, vous pouvez avoir des maladies émergentes qui vont rester très localisées. Donc c'est tout ce qui est nouveau dans le domaine de la pathologie infectieuse.
Alors une maladie qui peut sembler à première vue très simple, mais pas tant que ça. Pourquoi est-ce qu'un animal, professeur de la porte porte un virus sans tomber malade. Un virus pour qui nous, hein, êtres humains, quand on l'attrape, il nous cloue au lit et voire même il peut nous tuer.
Eh bien, c'est tout le problème de la faune. Hein. Nous, les hommes, nous sommes pleins de bactéries. Hein. C'est notre flore digestive, par exemple. Et donc, on vit avec un certain nombre de microbes. Et ces microbes, nous les contrôlons par notre système immunitaire. C'est la même chose au niveau du monde animal, avec des agents infectieux différents. Et sur la notion de réservoir de virus ou de bactéries, la notion essentielle, c'est que l'animal infecté n'est pas malade, parce que s'il était malade, ben, il mourrait et donc ça ne serait plus un réservoir. Donc la notion clé, c'est que ce sont des animaux qui vont bien, qui sont porteurs de ce virus, et ce virus, en changeant d'hôte, soit en passant directement chez l'homme, soit plus souvent en passant dans un autre intermédiaire, c'est-à-dire un autre animal, il va se modifier chez cet animal, il va s'adapter chez cet animal, et cette adaptation ensuite va faire que le passage de ce virus qui provient d'un premier animal à ce deuxième animal va nous contaminer, et à ce moment-là, ce virus va avoir acquis des particularités qui va nous rendre malades. Donc il va y avoir une transformation par passage indirect la plupart du temps. Parfois, il n'y a pas besoin de passage indirect.
Alors ça veut dire que le virus, il devient plus agressif, ou c'est parce que notre organisme, lui, n'est pas prêt, n'est pas habitué à cette agression ?
Non, il ne devient pas plus agressif, parce qu'encore une fois, dans l'animal, bah, c'est un réservoir, donc c'est le même. Mmh. Regardez le virus du sida, chez le chimpanzé, une fois qu'il est passé chez l'homme, c'est exactement le même virus de SIV pour simien, c'est devenu un HIV pour humain, mais c'est exactement le même, sauf que chez l'homme, il n'y avait pas les défenses qui lui permettaient de contrôler l'infection.
Et il a fallu longtemps pour le HIV, pour trouver justement qui abritait ce virus.
Très longtemps, ça a été une traque de plus d'une trentaine d'années, parce qu'on savait que les animaux, les petits singes faisaient des maladies proches du sida, les macaques par exemple, et donc il y avait une piste pour dire, tiens, le virus du sida, c'est peut-être chez les petits singes, et on a cherché, mais on ne retrouvait pas exactement le virus qu'on a retrouvé chez l'homme. Donc il a fallu faire des traques, en protégeant la nature, puisque c'est des espèces protégées. Et donc, pendant toutes ces maladies émergentes, il y a une technique très simple qui a été basée sur la collecte des selles, du caca de singe. À partir de ça, vous pouvez voir s'il y a des virus, s'il y a des microbes. Et puis, par ce travail de fourmis et des biologistes, on a pu montrer que certains chimpanzés étaient infectés par ce virus.
Précisément dans le cas du Covid, si on regarde maintenant ce qui se passe aujourd'hui, on entend qui est à l'origine, on a beaucoup entendu parler donc de cet animal, le pangolin. Qu'est-ce que l'on sait? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, professeur Delaporte?
Eh bien, on en est toujours au point d'interrogation. C'est une piste, mais pour l'instant, rien de définitif. Ce que l'on sait, et ce qui est sûr, c'est que les chauves-souris sont infectées massivement par des coronavirus, mais pas un de coronavirus différent. Et certains sont proches de celui qui donne le Covid, ce qu'on appelle le SARS 1, le SARS 2, et puis il y a d'autres coronavirus qui ne sont pas du tout pathogènes ou très peu pathogènes qu'on retrouve chez la chauve-souris. Donc l'une des hypothèses est que ces chauves-souris infectées par ce virus SARS 2, comme on l'appelle aujourd'hui, seraient passées chez un pangolin, et que ce pangolin aurait permis l'adaptation de ce virus et on se serait contaminé à partir d'un pangolin. Mais il manque encore des pièces du puzzle pour vraiment les expliquer. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est si cette contamination a réellement eu lieu au marché de Wuhan, seulement au marché de Wuhan, c'est là où il y avait plein de monde et c'est le facteur amplificateur lié au fait que les gens étaient les uns avec les autres, à côté des autres, et que la personne a peut-être été contaminée à la campagne et c'est en arrivant à la ville que la transmission de l'épidémie a débuté. Donc on est encore dans un point d'interrogation sur la chaîne de transmission exacte de l'origine de l'épidémie actuelle.
Alors on a abordé le HIV, le Covid-19, justement en dehors de ces deux grandes épidémies. Quelles ont été, professeur Delaporte, si on regarde un peu dans l'histoire de la santé de ces dernières décennies, les épisodes épidémiques qui peuvent illustrer justement cette transmission interespèces?
Un bel exemple, et le continent africain est lourdement touché, c'est Ebola, bien sûr. Et Ebola est un très bel exemple. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, sur l'épidémie de la plus dramatique, celle d'Afrique de l'Ouest de Guinée, en de Sierra Leone et du Libéria de 2014, aujourd'hui, on dit ben, c'est la chauve-souris. Mais en fait, ça ne repose sur rien, une chauve-souris, des enfants qui jouaient avec une chauve-souris sous un arbre, etc. On a les chauves-souris qui ont été testées dans cette région, on ne les a pas retrouvées porteuses du virus Ebola. Il y a des centaines de milliers de chauves-souris. Donc on s'aperçoit que ça repose sur une hypothèse, mais on n'a jamais pu prouver cette hypothèse. Et il n'y a qu'une seule étude faite justement au Gabon qui a montré que chez quelques chauves-souris qu'il y avait du virus. Mais ça n'a jamais été retrouvé dans d'autres chauves-souris. Et il y a toujours des questions, mais pourquoi à ce moment-là et pas à ce moment-là. Ce qui est certain, c'est que des chauves-souris ont pu contaminer d'autres animaux. Et on a pu retrouver des origines d'épidémie liées à des villageois qui avaient récupéré des chimpanzés décédés et contaminés par le virus Ebola. Et donc là, la transmission s'est faite de façon indirecte, c'est-à-dire la chauve-souris a priori ou un autre hôte, la chauve-souris joue un rôle forcément, mais lequel, on ne sait pas exactement, a contaminé ce chimpanzé, et le villageois a été contaminé par ce chimpanzé malade, parce que si le chimpanzé est malade, ça veut dire que lui n'est pas réservoir. Il est comme l'homme, il est victime de ce virus. Donc vous voyez, on pourrait multiplier à l'envi ces exemples avec des chaînes de transmission où les animaux peuvent être victimes, comme nous. Ou réservoir amplificateur.
Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure en partant pour le Gabon. Une dernière question avant de donner la parole à Romain Duda. 6 ans après, on peut retrouver l'origine d'Ebola, de cette grande épidémie de 2014-2016. Il y a encore des chercheurs qui travaillent dessus ?
Oui. Alors, il y a en Guinée, il y a le CERFIG avec Alpha Keita, Abdoulaye Touré. Au Cameroun, il y a Itel Boudi, à INRB, bien sûr, il y a l'équipe de Steve Aouka, et dans d'autres pays également. Il y a toute une équipe de chercheurs qui font à la fois du travail de terrain et qui font des collectes sur les chauves-souris, sur la faune sauvage, pour essayer de comprendre la circulation de ces virus Ebola et essayer de voir s'il y a des saisons, quelles espèces de chauves-souris seraient infectées ou pas infecté, c'est un travail gigantesque. On trouve des chauves-souris qui portent des anticorps, ça veut dire qu'elles ont été infectées a priori, mais on ne trouve pas de chauves-souris avec le virus. Donc il y a vraiment encore un grand point d'interrogation, mais oui, pour être très clair, il y a des équipes africaines qui sont à la traque, à l'origine de ces virus.
Alors maladie émergente, on va le voir, sujet qui intéresse de nombreuses spécialités, infectiologie, épidémiologie, vétérinaire, ce sera tout à l'heure. Alors à la croisée des chemins entre sciences humaines et biologie, on l'a entendu également à l'occasion de la crise sanitaire actuelle, grand questionnement sur l'environnement. Romain Duda, quels sont aujourd'hui les facteurs dans notre environnement, dans nos habitudes de vie, qui justement sont susceptibles de favoriser ces maladies émergentes ?
Oui, en fait, quand on parle de nos habitudes, il faut savoir de quelles nous on parle, je pense, parce que on est sur des thématiques globales, mais on ne peut pas mettre sur le même plan. Là, si on parle d'habitudes alimentaires, en tout cas, les habitudes alimentaires d'une riche famille chinoise, celle d'un Français qui va consommer du soja issu de la déforestation à l'Amazonie, ou celle d'un chasseur pygmée ramenant un pangolin ou un porc-épic pour nourrir ses enfants. Donc je pense qu'à chaque fois, il faut replacer dans le contexte local. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'émergences récentes, en fait, qui sont liées, on l'a vu, à une augmentation de la demande de produits animaux et de l'élevage intensif, soit domestique, soit d'animaux sauvages. On l'a vu avec les élevages de civettes en amont de l'épidémie de SRAS, celle de chameaux pour le MERS, les élevages de porcs pour une part. Donc en fait, c'est sur les comportements alimentaires qu'il faut agir et sur la question de la marchandisation du vivant, de l'artificialisation et surtout l'intensification des élevages, en fait. Et donc, sur la sensibilisation, sur les comportements alimentaires, peut-être plus que sur la régulation.
Donc, pour bien comprendre les comportements, comment l'homme, quel lien l'homme a-t-il avec la nature, quel contact, par exemple, qu'est-ce qui peut expliquer telle ou telle émergence ? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des forêts. Avec le Covid-19, on s'est beaucoup plus intéressé, là, Romain Duda, au marché.
Oui, on s'est pas mal intéressé au marché, parce qu'il y avait ce fameux marché de
Wuhan,
en fait, C'est vrai que ce genre de marché-là, il touche notre sensibilité d'Européens parce qu'on y stocke vivants ou morts des animaux, on découpe, on vend des espèces qu'on trouve tantôt mignonnes, tantôt immondes et qui correspondent pas forcément à nos goûts alimentaires d'Européens. Donc voilà, on stigmatise facilement ce marché sans forcément, comme le disait Eric Delaporte, connaître exactement là aussi quelle était la forme de contact, la modalité de contact qui a permis cette émergence. Le problème, c'est que vouloir en fait fermer ces marchés, comme ça a été dit, comme ça a été proposé, en fait, ça occulte le fait qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes alimentaires. Mmh. Et donc là, il y a une question aussi éthique de vouloir imposer des comportements alimentaires à d'autres. Et on sait que c'est pas la solution forcément de fermer ce genre de marché parce que ça n'affecte pas la demande en fait. Et le commerce, dans ces cas-là, il devient souterrain et encore plus difficile à contrôler. Et il ne faut pas oublier que la commercialisation en fait, d'espèces sauvages pour leur viande ou d'autres propriétés comme celle médicinale, elle dépend de la demande en partie d'une élite, que ce soit dans la capitale africaine pour la viande de brousse ou dans les grandes villes asiatiques. Et une élite qui aura les moyens en fait de payer un produit qui sera vendu finalement plus cher au marché noir. Donc je suis pas sûr que l'interdiction soit la bonne solution. C'est forcément la réaction classique en fait, mais qui se fait souvent au détriment de la sensibilisation des usagers.
Le commerce deviendra trafic. Alors vous êtes éco-anthropologue, comment ça se passe? Vous étudiez des pratiques comme la chasse, le mode de vie. Comment est-ce que vous travaillez concrètement?
Eh bien, comme un anthropologue, c'est-à-dire je pratique des enquêtes de terrain, le fait de vivre avec la population locale pour observer les comportements, alors alimentaires, les pratiques, les savoirs, et d'essayer de décrypter tout ça et de mieux chercher à comprendre alors les comportements actuels, mais aussi l'évolution des comportements avec une approche historique.
Avec un travail également avec des équipes médicales, on vous retrouve, professeur Eric Delaporte. En fait, on se demande pourquoi cet animal, pourquoi cet endroit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si c'était un temps T, un instant I, et tout s'est déclenché, et il faut remonter à cet instant pour retrouver l'animal réservoir.
Ben, c'est le fruit d'un hasard. Et c'est une succession de hasards qui font qu'on va avoir une épidémie. Depuis la nuit des temps, ces animaux sont porteurs de virus potentiellement dangereux pour l'homme. Mais il n'y a pas eu de foyer épidémique. On reprend l'exemple du VIH, parce que ces rétrovirus circulent chez les grands singes depuis de nombreuses années. Il pouvait y avoir un épisode de transmission du singe à l'homme. Mais après, il n'y avait pas d'épidémie, il y avait une étincelle. Mais la personne restait au fond de son village, au fond de la forêt, il n'y avait pas de contact secondaire, et les contaminations secondaires s'arrêtaient d'elles-mêmes. À partir du moment où le virus ou la personne infectée va sortir de son isolement, pour arriver soit dans un grand centre urbain, soit dans un marché, etc., à ce moment-là, la personne va être en contact avec d'autres personnes, il va y avoir des facteurs qui vont permettre que l'épidémie se diffuse. Donc il y a deux choses très, très différentes, il y a l'origine du virus, et c'est vrai qu'il y a plein de virus potentiels, et ensuite il y a l'origine de l'épidémie, parce que le monde a changé, parce que plus personne n'est vraiment isolé, parce qu'on peut être à la ville en très peu de temps, parce que par exemple, de la viande de brousse tuée au fin fond de la forêt va être mise sur un grumier et va se retrouver sur le marché en moins de 24 heures, ce sont les données du monde moderne qui vont faire l'épidémie. Et ça rejoint votre point, c'est que tout ça existait depuis longtemps. Le bouleversement du monde moderne, avec ses voies de communication, avec l'absence d'isolement, comme je vous le disais, cette promiscuité, cette surpopulation parfois, fait qu'on va retrouver les facteurs qui vont faire l'épidémie. Donc c'est vraiment deux choses différentes, l'origine du virus et ensuite l'origine de l'épidémie liée à notre monde moderne.
Professeur Eric Delaporte, Romain Duda, on va vous retrouver dans quelques instants.
Priorité santé sur RFI.
On vous donne tout de suite la parole, docteur Stéphane Delaroque. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais tout à l'heure, un vétérinaire conseiller technique à l'OMS, OMS qui, avec deux autres grandes agences, la FAO chargée de l'alimentation et de l'agriculture, et certainement moins connue, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, vous avez pointé l'importance du risque pour la santé humaine l'an dernier, à l'occasion de la sortie d'un guide pour lutter contre les maladies zoonotiques, ces zoonoses dont on parle depuis le début de cette émission. Docteur de la Roque, aujourd'hui, le grand public s'intéresse à ces risques, mais à quand remonte vraiment la prise de conscience, on va dire, au niveau des États, de ce besoin de travailler ensemble pour une approche globale sur ce risque, sur ce lien entre santé animale et santé humaine?
Je dirais que cette connaissance des risques qui sont associés à la fois à l'homme et à l'animal, elle est très vieille. Moi-même, je me souviens à l'école vétérinaire, si je faisais une faute sur la prévention de la rage chez les chiens, j'étais immédiatement en situation de redoubler. Donc on plaisantait pas du tout avec la santé publique vétérinaire. Mais c'est vraiment la grippe aviaire, vous vous souvenez, dans les années 2003, où vraiment on fait prendre conscience du fait que on avait ces échanges entre les animaux domestiques, les animaux sauvages, parce qu'on avait des oiseaux sauvages qui étaient impliqués, et puis des risques qui étaient internationaux pour la santé humaine. Et c'est vraiment avec la grippe aviaire que l'on a construit la coordination internationale, en faisant intervenir différentes agences, depuis l'UNICEF, la Banque mondiale, et puis les agences que vous avez citées. Tout ça associé avec des associations, des organisations de protection de la nature, qui ont tous ensemble, se sont regroupés autour d'une notion qu'on appelait initialement une seule santé, enfin qu'on appelle maintenant une seule santé. Initialement en anglais c'était One World, One Health, un monde, une santé. Aujourd'hui on parle de une santé, une seule santé en français. Et autour de cette notion-là, dans laquelle on partage un certain nombre de repères, de références, eh bien en fait on a commencé à construire un cadre de partenariat qui nous permet ensuite d'appuyer les pays, d'aider les pays dans le renforcement de leurs capacités.
Alors vous faites remonter vraiment l'implication internationale à cette crise du SARS, pourtant en milieu tropical, hein, les auditeurs qui nous écoutent le savent bien, on connaît l'incidence de la santé des animaux sur les humains, il y a eu d'autres épidémies, il y a des épidémies qui sont présentes de façon constante, justement directement liées à des bassins, à des foyers dans la faune. Comment se fait-il justement, docteur de la Roque, qu'on ne soit pas davantage appuyé sur cette expertise d'une certaine manière, peut-être en Afrique, pour mettre des zones de vigilance, des vigies, pour dire attention, là, il y a un problème?
Alors, en fait, on s'y est appuyé et il y a eu énormément d'efforts. Bon, vous parlez de l'Afrique, on va prendre un exemple comme la fièvre de la vallée du Rift, par exemple, qui est une maladie liée à des moustiques. On connaît bien l'écologie de cette maladie, on sait bien les facteurs qui peuvent nous laisser penser qu'on va avoir une épidémie. On sait même la prédire parce que avec l'intervention de gens qui travaillent sur les images satellites, par exemple, on peut imaginer les pluies qui vont arriver et derrière l'émergence de la maladie. Donc ça, on sait faire. La grosse difficulté, ça va être ensuite de coordonner les actions pour la détecter le plus vite possible et y répondre avant qu'elle n'amplifie trop. Alors je vais m'expliquer un peu mieux. Si on veut, on a bien compris avec les intervenants précédents que l'épidémiologie et l'écologie de ces maladies est compliquée. Mmh. Si on veut pouvoir y répondre efficacement, il faut arriver à la détecter le plus vite possible. La détecter, ça veut dire qu'au fin fond de la brousse, quelqu'un, un médecin ou un vétérinaire, est capable de le voir, de partager cette information, de faire remonter cette information, que cette information soit analysée ensuite par des gens qui savent faire ça, et qui savent faire ça pas seulement dans leur petit secteur, mais qui savent partager cette information, et ensuite qu'on ait les structures qui soient capables de faire de la réponse rapide. Et c'est là qu'on a une difficulté, et que c'est là que c'est particulièrement compliqué. C'est d'arriver à passer à une approche multisectorielle de ce genre de problématique.
Ça dépend de qui? Ça dépend d'organisations comme la vôtre, comme l'OMS, ou ça dépend des États?
Les organisations comme les nôtres, l'OMS, la FAO, l'OIE que vous avez citées, nous allons aider les États à construire ces capacités. Mmh. Ces capacités, souvent, vous savez, quand on a ce genre d'événement, tout va très vite. Donc on est rattrapé par la pression, par l'envie d'aller au plus vite possible réagir, et on n'a plus le temps de construire, par exemple, une collaboration entre la santé humaine et la santé animale. Si on ne l'a pas travaillé en avance, si on ne connaît pas ses interlocuteurs de l'autre côté, si on n'a pas mis en place les bons réflexes, les bonnes méthodes pour récupérer des échantillons, les analyser, partager l'information, si ça s'est pas fait en amont, c'est pas pendant les premières heures d'une épidémie que ça se met en place.
Ça veut dire qu'il faut déterminer par exemple des sites particulièrement à risque. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une sorte de cartographie avec énormément de référents qui vous font remonter ces informations ?
Ah, tout à fait. On connaît bien les zones à risque. En fait, on a eu énormément de travaux de modélisation qui ont permis, sur la base des éléments qui ont été discutés précédemment, hein, des facteurs de risque, qui nous permettent de savoir où sont ce qu'on appelle les hotspots, les zones les plus dangereuses à l'échelle de la planète. Et c'est dans ces zones-là qu'on essaye d'appuyer notre effort pour que les pays développent leurs capacités. Et le guide que vous avez cité en introduction de mon intervention a été écrit dans cette perspective-là, en partageant tous les éléments qu'on avait recueillis au niveau des différents pays depuis une dizaine d'années, toutes ces expériences sur les grandes fonctions qu'il faut mettre en place. Et aujourd'hui, notre travail conjointement avec l'OIE et la FAO, c'est d'aller dans les pays et de les aider à faire cette coordination entre les services de la santé humaine, les services de la santé animale, l'environnement. On les réunit ensemble dans des ateliers où on les fait travailler sur des réflexions.
Alors justement, travailler ensemble, docteur Stéphane Delarocque, vous êtes vétérinaire. Est-ce que vous avez le sentiment que votre spécialité aujourd'hui, par exemple, face au Covid-19, eh bien, cette spécialité, elle est suffisamment intégrée à la riposte contre la maladie ?
Ah, écoutez, elle l'a jamais ôté autant. Là, on est vraiment...
Les choses ont changé.
Les choses évoluent très vite, oui. Il y a vraiment une prise de conscience. Comme ça a été cité précédemment, la plupart des maladies émergentes viennent d'une nature zoonotique. Et dans les organisations de santé publique, y compris à l'OMS, il y a vraiment une prise de conscience que ce partenariat est absolument indispensable. Donc oui, on construit très fermement depuis une dizaine d'années. Et vous voyez, je crois que mon équipe est celle qui a le plus de vétérinaires à l'OMS. Donc on voit vraiment que c'est en train de démarrer fort. On est vraiment en train de se rendre compte que des événements comme celui qu'on vit actuellement, on va en avoir d'autres, parce que tous les facteurs font qu'on est en plus en interaction avec ces animaux domestiques, sauvages, des pratiques d'élevage qui peuvent éventuellement être favorables à l'amplification de pathogènes. Et donc, on va continuer, en fait, à recevoir venant de la faune sauvage ou de la faune domestique, ce genre de pathogènes. Donc, la bonne solution, c'est d'être capable de les détecter rapidement, de pouvoir immédiatement évaluer les risques et d'y répondre. Et ça, à l'échelle internationale. Donc là, on tombe sur des enjeux autour de la transparence, l'échange d'informations, ce genre de choses. Et puis, quand il s'agit de répondre, eh bien, des réponses qui sont
adaptées à cette riposte. Adaptées, il faudra encore tirer les enseignements de la crise qu'on est en train de traverser actuellement. Merci beaucoup, docteur Stéphane Delarocque. Vous êtes également chef d'équipe du service interaction homme-animal à l'OMS.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Éric Delaporte, on vous retrouve. Vous dirigez l'unité VIH-Sida, maladie associée à l'IRD à l'INSERM. La recherche, le travail de laboratoire, et puis en même temps, il y a quelques années de cela, le terrain, un point commun avec Romain Duda, notre autre interlocuteur. J'aimerais que tous les deux vous fassiez réagir sur cette double approche, à la fois travailler, on va dire des fois au cœur de la forêt, et puis à retourner après sur la paillasse, dans un laboratoire aseptisé. Comment on fait ce partage, cet équilibre entre les deux, professeur Delaporte ?
Ah bah, il est fondamental. Mon métier de base, c'est d'être médecin, donc d'être au contact avec les gens, d'essayer de comprendre les gens et de sentir. Et ça donne la possibilité ensuite d'interpréter ce qu'on trouve en laboratoire. Le gros problème souvent, c'est que lorsque le fondamentaliste est trop sur sa paillasse, il travaille sur un virus, et le problème n'est pas le virus tout seul, c'est le virus dans un environnement. Ce qui fait l'épidémie, c'est le virus dans l'environnement, les enjeux sociétaux qui sont autour de la diffusion du virus, etc. Donc le problème ne se résume pas à un problème de virus, mais à un problème, encore une fois, de la globalité. C'est pour ça que le travail de terrain et d'être en partenariat avec des personnes d'autres disciplines est fondamental, parce que sinon, on va décrire des mutations, des choses très sophistiquées, mais qui n'auront pas forcément d'intérêt de type santé publique.
Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Romain Duda, éco-anthropologue, quand on a une vision occidentale de ce qui se passe sur des marchés ou sur le bord de route en Afrique centrale, lorsque l'on veut acheter une chauve-souris ou un singe pour faire manger la famille, eh bien, on a une vision qui n'est pas adaptée, d'où indispensable travail de terrain.
Oui, c'est ça. Je pense que il y a le travail de terrain par les biologistes, par les virologues, par les écologues, et le travail de terrain de nous, anthropologues, qui travaillons sur les relations homme-environnement, c'est aussi de comprendre comment les populations perçoivent ces maladies, ou justement ne les perçoivent pas, qu'est-ce qu'elles pensent de l'émergence, de la transmission. Et là, il y a vraiment un travail interdisciplinaire à faire, pour le coup, là, dans lequel je suis investi à l'Institut Pasteur, où on travaille justement sur l'étude des différents types de contacts, en fait, pour comprendre les modalités, les risques de transmission zoonotique, parce que c'est finalement, et Eric Delaporte le disait tout à l'heure, on essaie jamais vraiment, finalement, en tout cas, les recherches sur l'origine de l'émergence sont souvent faites trop tard, et plus on attend, moins on a d'éléments. Et il y a un travail à faire sur le moment en cours d'épidémie. Là, pour le coup, les anthropologues ont été beaucoup sollicités sur les épidémies d'Ebola, par exemple, pour travailler sur la réponse communautaire et pour l'adaptation de la riposte. Mais aussi, c'est en amont, il faut savoir que l'explication des émergences épidémiques, elle nécessite en fait des remises en contexte historique très précises. En fait, on doit remonter le temps à chaque fois pour comprendre localement quel type de relation, quel type de contact l'humain a eu avec son milieu et comment ce type de contact a pu changer de nature avec le temps et avec les événements.
Parce que c'est bien le changement qui va être l'élément déclencheur. On va tout de suite partir pour le Gabon, où vous avez d'ailleurs longtemps travaillé professeur de Laporte.
RFI à Franceville, 104 FM.
Et en ligne avec nous, docteur Barthélémy Ngoubangoy, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef de service du centre de primatologie au centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville. Donc vétérinaire, les primates au cœur de votre activité. Alors c'est pas forcément comme on pourrait le croire, hein, parce que c'est pas forcément au cœur de la forêt que vous travaillez. Beaucoup de singes que vous prenez en charge, eh bien, vivent en fait, on va dire, quasiment en famille, au milieu d'humains, c'est bien cela?
Mais en fait, il faut peut-être restituer un peu le contexte. Nous sommes au Gabon, un pays traversé par l'équateur, en pleine forêt. Et le Gabonais, de par son histoire, il est chasseur-cueilleur. Donc l'interaction avec les primates date depuis fort longtemps. Et c'est naturellement normal que les questions liées aux primates soient notre préoccupation quotidienne. Donc, pour répondre à votre question, je suis au centre de primatologie du CINF. Nous avons l'un des plus grands centres de primatologie au monde. Et en appui à ce centre, nous avons l'association l'ONG Save Gabon Primates, dont le rôle est de récupérer les primates détenus en captivité dans les foyers gabonais.
Alors c'est bien ça, des primates qui sont dans les foyers, dans les familles, vous les récupérez. Comment ça se passe à ce moment-là? Vous récupérez les singes, vous leur faites passer des examens de santé?
En fait, il faut dire que, contrairement à certaines localités, ici, le primate est une source de protéines, au même titre que vous irez au marché, vous achèterez votre steak. Et donc, généralement, les chasseurs, ils vont braconner et les bébés, ils sont tellement mignons qu'ils sont récupérés et détenus en captivité dans le foyer. Sauf qu'en tenant ces animaux dans les foyers, donc vous mettez sur un même lieu un primate, un homme, et avec des
acteurs dans l'environnement. Donc, vous réunissez des conditions qu'on n'aurait pas en milieu naturel. Mmh. Donc, pour ne pas prendre des risques d'émergence de certaines maladies, notre rôle avec l'association Save Gabon Primates, c'est de récupérer ces animaux en vue de leur réintroduction. Mais comme nous sommes dans une zone endémique de certaines maladies, on va procéder à un certain nombre de tests pour être certain que cet animal n'est pas porteur d'autres, de certaines maladies qui pourraient représenter un danger pour d'autres animaux qui sont déjà réintroduits dans les parcs.
Par exemple, le palu?
Par exemple, le palu. On a monté en 2014, on a publié un papier là-dessus, où dans un foyer gabonais, où il détenait des mandrilles, donc le mandril sphinx. Et lors des contrôles sanitaires, on s'est rendu compte que ce mandril était infecté par Plasmodium falciparum, qui est un parasite connu de l'homme. Donc, ça veut dire qu'en détenant ces animaux dans nos foyers, on crée des conditions qu'on n'observait pas en milieu naturel. Parce qu'en milieu naturel, bien, l'homme ne va pas dormir à côté du chimpanzé. Le chimpanzé ou le mandril va être en forêt, l'homme en milieu urbain dans un village. Mais de par cette détention, on met dans un même site, on crée une sorte de carrefour. On retrouve le primate, l'homme et le vecteur. Et donc, du coup, on crée des conditions de transmission des maladies qu'on ne devrait pas observer en milieu naturel.
Professeur Éric Delaporte, me tourne vers vous. Ce risque, il est donc à double sens, hein, y compris pour la faune, même si on a plutôt, nous, avec notre regard au nord, tendance à sous-estimer ce risque.
Vous avez tout à fait raison, et je crois que mon collègue primatologue pourrait en parler mieux que moi, mais au Gabon, on a pu mettre en évidence des hécatombes de gorilles suite à Ebola, suite à la rougeole. Et alors, si Ebola c'est un animal, la rougeole c'était à partir de contacts d'hommes infectés par le virus de la rougeole. Donc c'est clair que ça va dans les deux sens, et que nous apportons également nos agents pathogènes à la faune et souvent la faune en danger.
Docteur Barthélémy Ngoumbangoy, on constate bien que la transmission va dans les deux sens. Est-ce que vous diriez que vous, au Gabon, l'inquiétude, c'est plutôt le sens homme vers animal?
Mais disons que si nous venons en tant qu'humains, vous aurez tendance à protéger la santé humaine et à se dire que le sens le plus à craindre, c'est animal vers homme. Mais aujourd'hui, on parle de santé unique, de One Health.
Exactement.
Donc la santé, vous voyez bien qu'il y a une interaction entre la santé humaine et la santé animale et qu'on a plutôt intérêt à considérer les deux sens. Parce que si vous avez votre virus qui va dans le sens de humain vers animal, il peut avoir des mutations au niveau de son nouvel hôte et revenir vers l'homme avec une autre virulence. Donc je pense que pour un meilleur contrôle de ces maladies, pour mieux... interagir avec notre biodiversité, on a plutôt intérêt à considérer les deux sens.
Et c'est là que le mot de sanctuaire prend vraiment son sens, hein, docteur Ngoumbangoy, parce que il faut suivre les personnes aussi qui se rendent dans les zones ultra sensibles, on va dire les zones naturelles protégées pour la faune. Comment ça se passe, par exemple, quand on est guide, quand on travaille, quand on est vétérinaire et qu'on va dans une zone, on va dire pure, pour éviter d'apporter tous ces virus?
Mais d'où l'intérêt de tout le travail qui est fait au niveau du CIEF et au niveau de son centre de climatologie. Si vous voulez, pour faire un schéma, les sanctuaires sont des sites où on va réhabiliter les animaux avant la réintroduction. Parce que souvent, ces jeunes primates qui ont été braconnés, ben, ils n'ont pas eu l'accompagnement de leurs parents. Donc, il n'y a pas eu cet apprentissage social. Ils ont très vite été arrachés du sein de la mère parce que celle-ci a été braconnée. Donc il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait au niveau des sanctuaires. Sauf que dans ces sanctuaires, vous avez des groupes, des primates qui sont déjà là, qui sont en attente de réintroduction. Et si vous réintroduisez là, dans ce groupe, un animal qui est porteur d'une maladie en incubation, vous prenez le risque d'exposer non seulement cette population humaine, donc ces travailleurs, ces animaliers qui accompagnent ces animaux, qui leur apprennent les rudiments de la vie sauvage, mais vous exposez également d'autres animaux qui sont suscités. D'où tout le travail qui est fait en amont, le travail de quarantaine, parce que certaines de ces pathologies sont parfois en incubation. Moi, vous tenez, votre animal, il peut paraître bien portant, il peut paraître en forme, mais c'est juste que pendant ce temps, il est en incubation. Donc, au niveau du centre de climatologie, on prend toute la partie de quarantaine, on se rassure que cet animal n'est pas porteur d'une pathologie pour pas y attendre simplement le risque d'introduire dans le milieu naturel, par exemple, un parasite humain.
Professeur Delaporte, sur ce risque de détention, de contrôle des animaux sauvages, c'est vraiment quelque chose aussi qui inquiète les infectiologues partout dans le monde?
Ah, oui, oui, il s'intéresse à la fois sur un plan sanitaire et puis également, bien évidemment, en tant que citoyen, hein, et sur le risque de perte de cette biodiversité. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ça fait partie des... Dès qu'il y a foyer de potentiel, oui, ça inquiète, et d'où les mesures de surveillance adéquates à mettre en périphérie, à la fois pour protéger ces sanctuaires et pour protéger dans les deux sens, oui.
Alors l'éco-anthropologie, Romain Duda, tout à l'heure on parlait justement des changements dans justement cet environnement. Il y a également tout ce qui se passe au niveau des habitudes de la vie, tout ce que vous étudiez, surtout ces rites, toute cette culture, avec bien sûr l'aspect essentiel quand on parle d'animaux sauvages dans ces régions tropicales, c'est bien évidemment la viande de brousse. Comment justement faire passer le message, respecter les usages, mais en même temps protéger les populations?
Oui, ben, pardon. En fait, oui, la question de la viande de brousse, c'est assez complexe parce que, évidemment, on ne peut pas, sous prétexte de maladies émergentes, tout à coup supprimer échange et consommation de viande sauvage dans des zones énormes comme le bassin du Congo, où la grande majorité de la population, elle dépend en fait de la faune sauvage pour l'acquisition de protéines animales. Donc restreindre l'accès à la viande sauvage est un peu un non-sens dans certaines zones, dans ce type de zone justement. Et là, c'est le problème avec la coercition et la répression en temps épidémique. Parce qu'en fait, voilà, on voit que c'est l'outil préféré qui est mis en place par les gouvernements qui souhaitent montrer une réaction rapide sous forme d'autorité. Souvent, on l'a vu, il accentue en fait des inégalités déjà présentes. En fait, quand on a des épidémies d'Ebola, il y a toujours un discours bon, qui est légitime pour le coup de restriction de consommation de viande sauvage, mais qui parfois justement prend des proportions justement disproportionnées. Quand j'étais en RDC sur une épidémie d'Ebola en 2018, justement, il y a eu un début de discours qui demandait aux populations en fait, de ne plus consommer les fruits en forêt, sous prétexte du risque en fait, qu'ils aient pu être
contaminés par des animaux.
Mmh. Et donc ça a créé une peur en fait, de toute la population locale de l'accès en forêt et donc de restreindre en fait, la cueillette. Et on voit qu'en fait, l'impact en fait social et politique en fait des épidémies, que ça peut accentuer des inégalités, de la pauvreté, etc. Donc en fait, c'est toujours le problème de surréagir par la répression, la coercition et les restrictions, plutôt que par la sensibilisation.
En même temps, les épidémies sont souvent associées à des mouvements de panique et de véritable angoisse. C'est vrai qu'on avait vu lors de la crise Ebola, par exemple, l'agouti quitter les menus en Afrique de l'Ouest, alors que c'est un plat tout à fait ordinaire et traditionnel, hein, ce gros rongeur. Professeur Delaporte, d'un point de vue médical, ça a du sens d'interdire un agouti sauce graine, un ragoût, c'est-à-dire bien cuit, ou ça n'a aucun sens?
Aucun sens. Aucun sens, parce que le problème, c'est que, et c'est là où c'est complexe, hein. Une fois que le virus est passé chez l'homme et que l'épidémie s'est développée, ensuite, le développement est purement interhumain. L'animal n'intervient plus.
On va dire c'est trop tard.
C'est trop tard. L'épidémie, elle se fait. Et donc, effectivement, de temps en temps, il va y avoir, comme je disais, une étincelle qui va devenir un incendie, mais une fois que l'incendie est là, l'animal n'y est plus pour rien. C'est le comportement humain et c'est les hommes les uns entre les autres qui se contaminent. Et donc ça n'a vraiment aucun sens.
Et si on a une stigmatisation de certaines pratiques, on peut dire qu'on a quasiment une stigmatisation de certains animaux, même si certains ont mauvaise réputation, c'est fondé, mais quand même, hein, on pense aux chauves-souris, aux rongeurs, sinistre réputation, c'est fondé quand même quand on est infectiologue, professeur Delaporte.
Alors, c'est-à-dire que les chauves-souris, ce sont des mammifères tout à fait extraordinaires. Je n'étais pas du tout un spécialiste, mais à force de travailler sur l'origine des virus,
on est obligé.
Plus on avance, plus on est émerveillé par ce monde des chauves-souris. Elles sont tellement diverses, elles sont tellement nombreuses, elles sont insectivores, elles sont frugivores, et elles sont effectivement avec une immunité très particulière qui font qu'elles sont porteuses d'un nombre très important de virus. virus qui potentiellement peuvent passer chez l'homme. Et c'est vrai que c'est une source également de protéines. On voit des enfants qui jouent avec les chauves-souris. Chez nous, en Occident, ben, on a toujours peur d'un enfant qui va jouer avec la chauve-souris parce que est-ce qu'il ne va pas transmettre le virus de la rage. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une peur autour de cet animal parce qu'il est nocturne, parce que physiquement il est impressionnant, et puis parce que bah, derrière il y a toutes ces maladies potentielles qui sont une réalité, mais de la même façon de vouloir éradiquer les chauves-souris n'aurait aucun sens par rapport aux émergences. D'abord ça serait complètement irréaliste et en plus complètement fou sur un plan santé publique, car encore une fois c'est vraiment un événement à un moment donné, c'est plus comment mettre en place les systèmes de surveillance, comme l'a dit le docteur Delaroque, comment développer les outils diagnostiques pour être tout de suite au début d'un foyer épidémique, sachant que c'est très compliqué. C'est compliqué pourquoi ? Parce que, par exemple, pour Ebola, les premiers symptômes, c'est une diarrhée fébrile. Et donc quand on fait une veille épidémiologique, et c'est vachement bien fait, c'est de mieux en mieux fait en RDC. Par exemple, en RDC, il y a eu une petite épidémie à Likati en 2017, qui a fait 4-5 personnes. Elle a été diagnostiquée. Il y a des années, ça n'aurait jamais été diagnostiqué, parce qu'il y aurait eu quelques personnes dans un village qui auraient eu une diarrhée fébrile, qui seraient morts, et puis fin de l'histoire.
Et là, la remontée, c'est très bien faite. Je voudrais juste, excusez-moi, professeur Delaporte, donner la parole au docteur Ngoubangoy, parce que l'émission touche presque à sa fin. Il est toujours en ligne avec nous du Gabon. J'aimerais que vous me disiez, docteur Ngoubangoy, si vous avez l'impression que les populations ont conscience du risque de la transmission, et comme vous êtes sur place, comment faire passer le message aux populations pour se protéger, mais on l'a bien compris aussi, pour protéger aussi cet environnement qui nous entoure.
Vous savez, Caroline, la notion du risque, elle a d'importance lorsqu'on a d'alternatives. Quand vous êtes dans certains milieux comme des milieux ruraux où les gens n'ont pas d'autres alternatives pour une source de protéines, entre une probabilité, une mort probable liée à une infection virale ou parasitaire et une mort certaine parce qu'on n'a rien d'autre à manger, eh bien les gens vont préférer manger quitte à risquer la mort. En plus, dans les environnements comme le nôtre, il est vrai que nous, on est un pays sur l'équateur, c'est là où il y a la plus forte diversité des parasites au monde. Mais au quotidien, au final, comme ce sont des habitudes culturelles, les gens, leurs grands-parents, arrière-grands-parents ont toujours chassé, on a l'impression que la notion d'interdiction de chasse et autres, c'est plus les valeurs occidentales qu'on veut nous imposer. Et donc, il faut dire que les habitudes ont la peau dure et que nous, on le voit au quotidien avec les centres d'épidémiologie, l'association des bons primates, dans nos campagnes de sensibilisation et autres, c'est assez difficile de faire bouger les habitudes. Dès l'instant où les gens n'ont pas d'alternative, et quand on estime que ce sont des valeurs culturelles et qu'au final on a toujours consommé ces animaux sans dégâts importants, c'est pour dire qu'on a encore du chemin sur ce
plan-là. En tout cas, on l'a compris, l'alternative c'est peut-être d'améliorer le niveau de vie tout simplement de la population. On vous remercie beaucoup, on vous remercie tous d'avoir participé à ce débat Priorité Santé. Docteur Barthélémy Ngoubangoy, merci beaucoup d'avoir été en ligne du Gabon. Je rappelle que vous êtes chef de service du Centre de Primatologie au Centre Interdisciplinaire de Recherche Médicale de Franceville, professeur Delaporte, professeur des maladies infectieuses à l'Université OCHU de Montpellier, et vous, Romain Duda, chercheur à l'Institut Pasteur au sein de l'unité de recherche anthropologie-écologie de l'émergence des maladies. Merci à tous les trois. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. C'est tout, Samaké, Ophélie Lassène, Juliette Brault aujourd'hui avec nous, Jérémy Besset et Raphaël Lazizi. Demain, on va parler de la santé bucco-dentaire, questions sur les caries, les gencives douloureuses, bien se brosser les dents, des spécialistes pour vous répondre à partir de 9h10 temps universel. À demain, d'ici là, portez-vous bien et on se lave toujours très bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.